VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Abidjan, midi à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, au moins un mort et trois blessés dans de nouvelles manifestations antigouvernementales aujourd'hui à Bujumbura. Un sommet régional se tiendra le 13 mai en Tanzanie pour tenter d'enrayer la crise dans le pays. Eddie Sango.
C'est Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, qui a annoncé ce sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est le 13 mai à Dar es Salaam. C'était suite à la visite des quatre ministres des Affaires étrangères de la région à Bujumbura, où ils ont rencontré les présidents Nkurunziza, puis des leaders de la société civile et des partis politiques, les chefs de l'État. Pierre Nkurunziza, déjà élu en 2005 par les parlements et réélu en 2010 au suffrage universel direct, a été investi le 25 avril par son parti, les CNDD-FDD, pour briguer un troisième mandat. Depuis, les manifestations quotidiennes sont sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Les violences ont fait 14 morts depuis le début des manifs, craignant les pires. Près de 25 000 Burundais ont fui pour se réfugier au Rwanda et en RDC.
Au Nigeria, Maïdougouri, capitale de l'État de Borno et berceau des islamistes de Boko Haram, se remet progressivement de plusieurs années de terreur. Mais les nombreux déplacés qui y ont trouvé refuge ne savent pas où aller. Pour le point de la situation, Timothée Donagmaï a contacté à Maïdougouri un habitant qui nous a souvent parlé au plus fort de la crise et qui témoigne sous anonymat pour raison de sécurité.
Tout est calme. Les gens attendent le retour officiel dans leur village, dans leur localité. Et ce qui fait retarder les gens à retourner chez eux, c'est surtout le fait qu'ils n'ont plus rien à la maison. Les villages ont été calcinés. On a mis le feu sur toutes les maisons, toutes les écoles. Et donc, il y a tout à recommencer dans presque tous les villages. Et donc, c'est ça qui fait retarder les gens. Mais si on leur donnait les moyens de rentrer avec les assurances d'abri chez eux, en tout cas, tous les réfugiés que nous avons à Maïdougouri seraient déjà tous partis.
Le gouvernement continue d'annoncer la libération d'anciens otages de Boko Haram. Est-ce que vous en avez vu? Vous en avez des nouvelles?
On annonce des pareilles nouvelles tous les jours. Mais il faut être prudent, parce que ça fait plusieurs années que l'armée nous ment. L'armée est de connivence avec certains politiciens et les commandants des armées qui nous mentaient tous les jours. Tous les jours, on nous dit toujours qu'on a récupéré telle localité, on a récupéré tel village, on a tué tous les Boko Haram, mais on ne les voit pas, on ne les voit jamais. On n'a jamais capturé, ne serait-ce qu'une personne à qui on peut poser des questions et qu'on peut voir sur un écran, même en train de passer un jugement public. Donc, on fait que dans nos têtes, cette histoire, ces agents Boko Haram restent comme des mystérieuses personnes. Et nous, on attend voir des gens, il faut qu'on sache la vérité. Parce que, je ne peux pas vous cacher, cette histoire de Boko Haram va laisser des rancœurs dans les cœurs de beaucoup de gens, surtout ceux qui ont souffert comme nous. On ne va jamais oublier ça, parce que nous avons perdu des gens trop chers.
Que pensez-vous de cette offensive de l'armée gouvernementale contre la forêt de Sambisa, où se seraient retranchés les insurgés de Boko Haram?
Ils font du théâtre, comme je vous dis. C'est des montages. Ils sont en train de récupérer les choses qu'eux-mêmes leur avaient prêtées. Maintenant que le contrat est résilié, et donc, c'est ce que la population dit, hein. C'est pas ma vision. Mais dans la rue, c'est ce qu'on raconte. Parce que depuis 6 ans, ils ont été incapables de démanteler l'endroit-là. Pourquoi c'est maintenant?
À un habitant de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, au Nigeria. Burkina Faso, la veuve de Thomas Sankara, exilée en France depuis l'assassinat de son époux en 1987, sera entendue par le juge d'instruction militaire le 18 mai à Ouagadougou. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
Mariam Sankara est attendue le 14 mai à Ouagadougou. Selon maître Benewende Stanislas Sankara, elle sera entendue le 18 mai par le juge d'instruction militaire qui s'occupe du dossier. Au cimetière de Dagnoouin, dans l'est de Ouaga, une tombe affiche le nom du héros de la révolution burkinabé, mais ses restes n'ont jamais été identifiés. Le gouvernement vient de donner son feu vert pour l'exhumation du corps, dans le but de l'identifier formellement. Le capitaine Thomas Sankara, arrivé aux affaires par un coup d'État en 1983, a été tué 4 ans plus tard, lors du putsch qui a porté au pouvoir Blaise Compaoré. Monsieur Compaoré, après 27 ans de règne, a été renversé le 31 octobre dernier par une insurrection populaire.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz affirme que l'esclavage n'existe plus dans son pays, tout en admettant qu'il reste des séquelles de cette pratique. Il accuse les ONG de faire de l'esclavage un fonds de commerce. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA et directeur de campagne de Biram Ould Abedi, le militant anti-esclavagiste mauritanien condamné à 2 ans de prison.
La vision du président Mohamed Ould Abdelaziz est une vision erronée quand il dit qu'il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. C'est une position qui a été toujours défendue par tous les esclavagistes, par tous les morts à la tête desquels se trouve Abdelaziz. Le dispositif que le président Mohamed Abdelaziz est en train de mettre en place prouve une fois encore que l'esclavage existe et existe bien. Si l'esclavage n'existait pas, pourquoi élaborer un projet de loi du gouvernement pour le proposer à l'Assemblée nationale pour voter? Pourquoi il a mis en place une agence de lutte contre l'esclavage ou ce qu'elle prétend être le secteur de l'esclavage? Pourquoi élaborer une feuille de route qui parle de l'esclavage si l'esclavage n'existe pas? Abdelaziz aura beau à dire l'esclavage existe et tous les cas d'esclavage qui ont été portés devant les juridictions nationales n'ont pas connu de suite puisque les juges même c'est des esclavagistes. On va mettre en place une juridiction spécialisée et dans l'esclavage si l'esclavage n'existe pas. Quand même une chose et son contraire ne peut pas exister en même temps.
Et qu'en est-il des militants de l'IRA d'ailleurs qui sont condamnés à 2 ans de prison, notamment Biram Ould Abedi?
Oui, les militants de l'IRA continuent toujours à croupir injustement dans des prisons. Des prisons ont été jugées à Rosso. Le collectif d'avocats avait introduit un appel qui n'a pas connu de suite jusqu'à présent. Nous sommes toujours en train d'attendre. On ne sait même pas quelle est la juridiction qui est compétente puisque tout récemment, le bâtonnier qui est le président du collectif a été saisi par le procureur de la République Nansop. Celui-ci a dit que, ou bien ils veulent faire passer le jugement de l'appel au niveau d'Alègue. Or, à Alègue, ils sont détenus dans un centre pénitentiaire qui ne dépend pas de la cour d'appel qui est susceptible de les juger, en l'occurrence celle de Nansop. Ça fait partie des entraves depuis le premier jugement qui a consisté à les déférer de Rosso à Alègue dans une autre cour d'appel dont le centre pénitentiaire d'Alègue ne dépend pas.
Mohamed Ould Abdelaziz vous accuse, vous, les ONG, d'utiliser l'esclavage comme fonds de commerce pour la gloire.
Ça, c'est son point de vue que je considère comme toujours erroné. Je ne parle pas seulement de la Mauritanie. Le monde entier connaît qu'il y a l'esclavage en Mauritanie. Le monde entier est en train de comprendre la justesse du combat de l'IRA et les organisations qui œuvrent pour la lutte de l'esclavagisme. Ça, c'est son point de vue. En étant esclavagiste, il ne pourra dire que cela. Nous le dérangeons à travers cette lutte contre l'esclavagisme, mais sur le plan politique également. Biram, qui était candidat aux élections présidentielles, a bien dérangé le président Abdelaziz. C'est entre autres une des raisons pour laquelle Biram et ses camarades, Ibrahim et Djibisso, qui se retrouvent aujourd'hui tous vivant en prison. Ce n'est pas quand même quelque chose de justifié, ça n'a pas de sens. Combien de cas d'esclaves il a porté devant les juridictions nationales? Aucun cas n'a connu un jugement. Aucun, je dis.
Ahmed Tidjane Diop, membre du mouvement abolitionniste IRA en Mauritanie. En Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain John Kerry a eu ce lundi des consultations qu'il qualifie de constructives avec le président yéménite Abdou Rabou Mansour Hadi, qui a cherché refuge dans le royaume wahhabite face à l'offensive des rebelles chiites houthis. M. Kerry souhaite une pause humanitaire dans la guerre civile au Yémen, il l'a dit lors de son escalier à Djibouti, ici à Kaba.
Selon l'envoyé spécial de la VOA, Pam Dawkins, le chef de la diplomatie américaine, a aussi annoncé une nouvelle aide de 68 millions de dollars pour le Yémen. Ces fonds appuieront les agences qui fournissent vivres, eau, abris et autres à 16 millions de Yéménites dans le besoin. L'Arabie Saoudite, pour rappel, a mené des raids aériens au Yémen contre les rebelles chiites houthis qui cherchent à renverser le gouvernement de Sanaa. Monsieur Kerry a rencontré à Djibouti le président Ismaël Omar Guelleh et son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Il les a remerciés pour leur assistance à des centaines d'Américains qui se sont réfugiés à Djibouti pour fuir la violence au Yémen, tout juste de l'autre côté du golfe d'Aden. Tout comme il l'a été en Somalie, John Kerry est également le premier secrétaire d'État américain à visiter Djibouti, où il a aussi rencontré les officiels américains au camp Lémonier. Cette base, dans l'ancienne colonie française de Djibouti, est devenue une partie importante de la présence militaire américaine au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.
Ouverture des bureaux de vote au Royaume-Uni pour des élections locales et législatives où 45 millions de Britanniques choisissent leurs représentants au Parlement et dans diverses assemblées. Et puis en Irak, les militants de l'État islamique contrôlent partiellement la raffinerie de pétrole de Badji, non loin de Mossoul. C'est ce qu'annonce le Pentagone en soulignant que le contrôle de la plus importante raffinerie pétrolière du pays donne aux djihadistes un avantage stratégique dans la lutte pour Mossoul, la seconde ville de l'Irak.
Soyez au cœur de l'info.